Cher toi, cher temps, temps, T-E-M-P-S, tant de temps dévalé, vécu, englouti. Lui courir après, le laisser passer, le prendre, ne pas l'avoir, ne plus l'avoir. T-E-M-P-S, ne pas pousser mémé dans les orties. Cher toi, cher temps, tu laisses le soleil se lever et se coucher sans condition. Tu nous fais traverser la vie d'un point à un autre sans négociation. On ne t'y échappe pas, on ne t'y échappe que jamais. Tu n'auras donc pas épargné nos conversations. Les filles de joie parlent de vieillesse ce soir, mais mémé préfère parfois les orgies aux vieux tiroirs. Alors, juste pour la blague, PS, il faut pas pousser mémé dans les orgies. Lançons la cadence, bienvenue sur la fréquence du 107.5 FM de RDOA. Ce sont les filles de joie pour leur 10e ère glaciaire. Et oui, ça file, ça découd, ça secoue. L'an 2000, c'était il y a 23 ans tout pile. Cher toi, te courir après, te laisser passer, te prendre, ne pas t'avoir, ne plus t'avoir, te savourer. Générique. Tu entends ce crépitement ? Nous aussi. C'est le feu de joie qui brûle sous l'envie de frivoler. Oh les cœurs ! RDOA présente. Les filles de joie. Émission au BPM mensuel qui se joue du patriarcat pour allègrement le réduire en paillettes.
La vieillesse.
Les années passent et lui reste la même.
Oui.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir les filles de joie. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être là. On a une super belle table ce soir.
Qui y a-t-il alors?
Écoutez, au micro là de suite, hein, c'est Lulu Bzzz. Voilà. Et à ma gauche se trouve
Madame Trottoir. Oh.
Mais ce soir.
Oui, ce soir je suis Madame éclatée au sol.
Ah. Voilà, on est d'accord.
Madame éclatée au sol.
Oui, je suis à un stade de fatigue assez avancé. Oh. Mais en fait, t'as un peu spoilé parce que c'était le début de ma chronique.
Guys.
Pour dire que j'avais très mal fait mon travail. Qui n'est pas un travail, parce que travail, ça veut dire torture. Mais disons que j'ai mal œuvré. Et mal œuvré ma manœuvre. Merci, c'est tout pour moi. Je passe ça à ma gauche.
Mais moi, c'est Fauve. Du coup, peut-être la représentante la plus légitime dans cette vieillerie dont nous parlons et que nous abordons, malheureusement, sans personne concernée. Forcé de le constater. Mais c'est cool, c'est chouette. Et aussi, c'est intéressant de parler depuis nous et depuis nos âges. Et c'est chouette aussi de s'emparer cette parole-là et de cette pensée-là. Et voilà, on verra par la suite.
Et moi, c'est Fawn, et du coup, je suis là pour intervenir quand j'ai envie.
Quelle liberté, c'est incroyable. Ensuite.
Eh bien, moi, Nénu, à la technique, toujours.
Mais pas que.
Oh. Et vous donc ?
Et moi, c'est Micha. Micha ? Micha, fille de joie depuis 2002.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon-bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition, paroles, cris, fornication, foutre interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever.
Bon, voilà, on a eu besoin de ce son de Brigitte Fontaine pour revenir un peu à nos moutons, nous détendre et repartir donc pour ce tour de table. Juste, je donne le nom de ce son, c'est Prohibition de Brigitte Fontaine. Et c'est parti, la vieillesse. Est-ce que je commence ?
Bah oui.
Bah oui.
Allez, eh ben pour moi, la vieillesse, je crois que j'y ai pas forcément beaucoup réfléchi avant de venir, mais parce que je me sentais aussi en plein dans le sujet. C'est un peu l'objet de ma chronique, de réfléchir à comment s'organiser pour que la vieillesse des personnes qui sont autour de moi se fasse la mieux possible. Voilà. Et je crois que c'est un peu la vieillesse, quelque chose qui m'échappe parce que ça me paraît très loin. Et en même temps, je le vois pas venir, mais je sens bien que c'est là, en tout cas pour ce qui est de mes parents, de ma grand-mère, des gens comme ça. Et du coup, c'est un peu plus quelque chose que je commence à observer, qui fait partie de ma vie, mais c'est pas encore là. Voilà, c'est très flou, en fait. Et je crois que j'aimerais être en contact avec plus de personnes plus âgées. Voilà.
Merci de ton partage. Quelqu'un se sent inspiré pour prendre la suite.
Moi j'ai beaucoup réfléchi à la vieillesse, la vieillerie, tout ça, depuis un certain temps. Et avec la collective Rose Canine, où on fait donc de l'autogynéco par les plantes, on a sorti des brochures et je me suis personnellement occupée de celles sur la périménopause et tous ces âges post-ménopause. Parce que je trouvais qu'il y avait un grand tabou et un grand silence et qu'il y avait des mots que je voyais, que j'entendais et qui me questionnaient parce qu'ils n'avaient pas de réponse, ils n'avaient pas de couleur, ils n'avaient pas d'image sur ce qui arrive à la femme après, même la ménopause, même sur ce qu'on vit dans cette période-là. Donc je vous invite déjà dans un premier temps à aller télécharger cette brochure qui est gratuite sur libertaire.net et infokiosque.org, je crois, aux brochures de Rose Canine. Et donc elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle La vieillesse, tout simplement. Et à ce moment-là, j'ai aussi interrogé ma mère. Et c'était assez intéressant, parce qu'elle a du coup aujourd'hui 73 ans, elle va en avoir 70 à ce moment-là. Et la questionner sur elle, son ressenti. C'était une femme qui était beaucoup dans la séduction, qui était beaucoup dans pas mal de choses. Et du coup, je me demandais comment elle avait vécu du coup, ce moment de vie où tu passes à autre chose. Parce que j'avais vu que le fait de ne plus séduire la faisait moins exister. Et c'est à peu près ce qu'elle m'a dit. Ensuite, je pense que ça appartient vraiment à son histoire et à sa façon à elle de s'être située comme femme indépendante dans son trajet. Et elle disait que vraiment, c'était l'invisibilisation qui était le plus difficile, que vraiment, elle sentait comme si elle n'était plus vraiment une personne de cette société et que tout le reste était carrément OK, mais que ce truc-là était dur. Et du coup, bon, on en reparlera peut-être à d'autres moments, voilà, et Et ensuite, j'ai parlé avec pas mal de personnes, du coup, de post-60 ans, et j'ai trouvé très gai leur discours et très rassurant. Et c'était aussi pour ça que j'ai envie de faire une série sur ces femmes après 60 ans, parce qu'en fait, c'est très rassurant et très gai et très joyeux ce qui nous attend, je trouve. Et que même quand c'est pas ce qu'on avait projeté ou ce qui nous paraît pas aujourd'hui d'actualité, en fait, c'est vécu avec beaucoup de sérénité. Et qu'en vérité, on n'entend pas assez ce discours hyper positif des meufs après 60 ans. Et que voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de leur faire prendre la parole, parce que je trouve que c'est rassurant et que c'est en fait c'est cool, tout va bien.
J'aurais bien aimé rebondir plutôt que d'apporter d'autres choses. Enfin, moi, ma mère, du coup, je l'ai eu au téléphone aussi, et c'est ça qu'elle m'a. Enfin, elle va avoir 60 ans. Je spoil de nouveau ma chronique, mais elle disait qu'elle avait. En fait, ce qui lui faisait le plus peur, c'était d'être rejetée de certains lieux de socialisation, parce qu'en fait, elle était trop vieille et qu'elle avait peur qu'on lui demande, mais en fait. Enfin, qu'est-ce que tu fais là, en fait, c'est pas ta place du tout, et c'est quelque chose qu'elle se fait dans sa tête aussi. Mais ça montre aussi qu'on n'a pas forcément, enfin, que c'est pas complètement ouvert, quoi, en tout cas. Et moi, par rapport à la vieillesse, je me suis rendu compte, enfin, c'est une phrase de Mr. Nobody, je m'en sors pas du tout. Je vais essayer de rendre ça plus fluide. Il y a une phrase dans un film de Mr. Nobody qui met vraiment les mots sur ce que j'ai ressenti pendant longtemps. Et qui fait que j'ai eu des dépressions quasiment à tous mes anniversaires, notamment à mes 20 ans, où je me suis dit, mais en fait, j'ai rien fait de ma vie, et je suis en train de vieillir, etc. Et en fait, dans le film, il dit cette phrase, c'est « j'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de ne pas avoir assez vécu ». Et je crois que c'est plutôt ça qui m'angoisse beaucoup. Voilà, c'est ça à peu près à quoi ça m'a fait penser, la vieillesse. Mais en même temps, ça m'a vachement rassurée parce que, enfin, surtout depuis que je suis dans le DIY, j'ai de plus en plus d'amis de tous les âges. Et je trouve ça hyper chouette, en fait, de. Pardon. Vraiment, de manière auditive, cette émission. C'est un peu n'importe quoi. Mais bref, ça me fait vachement de bien, en fait. Je me rends compte que je mets pas. Enfin, l'âge, en tout cas, ça change rien pour moi, en fait. C'est juste des personnes avec qui tu discutes. Et mes amis qui ont plus de 60 ans, par exemple, on a des discussions interminables jusqu'à 1h du matin. Et ça fait trop du bien, en fait. Et je trouve ça juste normal. Et je trouve ça fou qu'on se rencontre pas plus dans l'espace public, en fait.
Moi, j'ai envie de rebondir également. Rebondir. Non, en fait, ça me faisait penser parce que avant de venir à l'émission, j'ai pensé à la vieillesse, tout ça, au thème de l'émission. Et je me disais, la vieillesse, c'est comme si il y avait un moment, à partir d'un moment, un moment T, quoi, on est vieux. Mais en fait, je sais pas, il y a un truc qui me. Je me disais, est-ce que j'ai peur de vieillir ? Je me suis posé la question pour moi, est-ce que j'ai peur de vieillir ? Est-ce que j'ai peur de. Et en fait, finalement, je me suis dit. Que j'avais pas spécialement peur de vieillir, mais que j'ai eu très très longtemps, et je crois que c'est encore un petit peu actuel, la peur de grandir. Alors, mais c'est aussi associé à vieillir. Et du coup, je me suis. En fait, parce que depuis. Mais je sais pas si c'est vraiment dans le thème, mais en tout cas, je me suis interrogée sur ce sujet et je me suis dit que depuis petite, j'ai peur d'être une adulte. Et maintenant que je suis adulte, je crois que j'ai plus peur. Enfin, que en fait, comme tu disais, je crois que je suis très contente aujourd'hui d'être amie avec plein de gens d'âges différents. Et voilà, ça n'a pas trop de sens. En fait, j'ai plein d'idées dans la tête, mais peut-être que j'arriverai à rebondir au fur et à mesure de l'émission. En tout cas, voilà, que ça me fait penser. Vieillir, ça me fait penser aussi à grandir, en fait.
Du coup, je me suis un peu posé la même question. En fait, pendant toute ma jeunesse, je me suis jamais trop interrogée sur la vieillesse, à part quand je la côtoyais à travers des grands-parents, avec ce côté très respectueux qu'on doit avoir envers eux parce qu'ils ont vécu toute cette histoire de vie, mais sans vraiment m'interroger sur moi, ma propre vieillesse, à quel moment elle allait me sauter au visage, clairement. Et aujourd'hui, mes deux dernières années, là, finalement, j'ai atteint l'âge où elle me saute au visage, à travers moi, mon propre visage, mon corps qui change, mon état d'esprit aussi, les gens vers qui je me tourne, et aussi à travers mes amis, en fait, que je vois vieillir. Il y a donc cette prise de conscience que ça y est, en fait, on passe à. On n'est plus dans notre. État physique d'apogée, et d'un coup, en fait, on se transforme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être en évolution et dans une ascension aussi, mais en fait, on physiquement, notre corps, il se transforme, il change, et donc du coup, il y a aussi une prise de conscience de, je dirais, pour ma part, de bah, comment je vis et faire attention en fait, à ce que je consomme ou autre. Alors qu'avant, il y avait un peu ce truc d'éternité où, en fait, peu importe, j'enchaînais les nuits blanches, rien ne m'atteignait. Et là, maintenant, il y a vraiment cette prise de conscience-là. Et à travers mes amis qui, eux, n'ont pas conscience de ça et que je vois qui s'esquintent. Et du coup, moi, je fais hyper attention à ça. Et je pense d'autant plus parce que je suis une femme et que ce truc d'être une nana et que, bah, en fait, le vieillissement sur une femme, il est beaucoup plus remarqué, dit, nommé. Et donc, je pense que c'est aussi à cause de ça que je suis d'autant plus vigilante, quoi. Je dirais que je suis quand même assez dominée par ce truc-là. Que je vois quand j'en parle avec mes amis du même âge ou un peu plus vieux, hommes, ils n'ont pas du tout cette même interprétation. Et là, je trouve que vraiment, il y a une différence notable entre les hommes et les femmes qui existent.
Ouais. De ouf.
Voilà, en partie.
Oui, ouais. Carrément.
Et ouais, alors je te rejoins complètement parce que du coup, je viens de fêter mes 43 ans et que j'avoue que je fais des espèces d'allers-retours sur être OK avec le fait que mon corps change. Mmh. Et que, enfin, tu sais, genre, tu l'as jamais vécu jusque-là. Tu as vécu une adolescence où effectivement ton corps change, mais c'est plutôt cool parce que enfin, tu as des formes et presque tu les attends. Mmh. Et là, il y a un truc où je suis constamment dans une espèce d'aller-retour où j'ai tout ce que j'en pense et que j'ai théorisé sur ça, sur le fait de « ok, c'est cool, j'ai des rides, c'est beau, mes seins tombent, c'est ok, tout tombe, ça va finir par tout tomber s'il faut, et ce sera très bien comme as ». Mais et tout un côté où des fois, je peux être très dure avec moi-même et je m'en veux, parce que je me dis « mais c'est ridicule, en fait, toi-même, t'es en train de poser des critères qui t'appartiennent pas du tout de beauté, en plus que je trouve très belle plein de femmes dans la rue, et pourquoi aussi, des fois, il y a des moments où je vais être plus fragile ?» Et avoir un regard sur moi-même beaucoup plus dur. Et je trouve ce petit moment-là, je sens que c'est un petit moment d'apprentissage sur, effectivement, le corps qui vieillit, la peau qui change, et même la matière de peau, tu vois, des petites choses. Genre, je suis, ma peau, du coup, c'est quoi ce truc, machin. Et où des fois, je suis hyper dure avec moi, et je m'en veux d'être dure, parce que j'ai pas du tout envie d'adhérer à ces critères. Et ce petit aller-retour-là, il est assez nouveau pour moi.
Justement, par rapport à ce que tu disais précédemment, je pense que... on est obligé de passer par ce processus-là d'acceptation pour justement atteindre le côté joyeux, festif de la vieillesse que tu nommais tout à l'heure, de femme de 60 ans complètement épanouie. Je pense qu'il faut qu'il y a cette transition, cette mutation du corps qu'il faut accepter. Et elle peut être un peu comme une crise quand on change, notre corps il change à l'adolescence, il change tout le temps, mais il y a des moments où c'est plus marqué que d'autres. Ben, en fait, cette mutation, il faut la laisser exister pour pouvoir aller vers quelque chose de plus paisible. Mais il y a un autre truc qui, pour ma part, en fait, est aussi important, c'est que certes, mon corps, il change, mais parce qu'en fait, on se détache un peu des artifices physiques et superficiels, eh ben, on va plus écouter le plaisir. Et je dirais que plus je vieillis, plus je prends mon pied. Et ça, c'est, je pense, vraiment un truc intéressant qu'il faut valoriser vraiment dans la connaissance du plaisir. Elle est réelle, quoi, en fait. Hein. Oui, pour ma part, c'est le cas.
Oui, non, c'est vrai, complètement.
Mais aussi parce qu'on connaît mieux notre corps. Au fil des années, on évolue avec lui et le temps passe par lui. Et en fait, on est dans lui. Donc je pense qu'en le connaissant et en l'apprivoisant chaque jour... Des années, on peut le faire jouir de mille manières nouvelles tous les jours. Donc il a une mémoire aussi dedans.
Ouais, et puis je crois qu'on sort un peu de ce schéma de l'esthétique féminin et de ce qu'on doit être pendant notre sexualité, pendant qu'on fait l'amour, quelle posture on doit avoir, comment on doit se comporter pour plaire à l'autre. Et bien en fait, quand notre corps il se transforme, qu'il change et qu'on l'accepte en fait avec ses imperfections vieillissantes. Et bien aussi, en fait, du coup, on va écouter d'autres choses qu'on n'écoute pas forcément au moment de l'acte de plus jeune. Enfin, après, c'est vraiment quelque chose qui peut être très différent selon chaque individu. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment que plus j'accepte de vieillir et plus, en fait, j'ouvre les portes du plaisir que j'arrivais pas à trouver avant. Et ça, c'est, je crois vraiment, le fait de se détacher du superficiel. De toute façon, je vieillis, mon corps, il change. Ma beauté, elle sera pas la même dans 10 ans. Donc qu'est-ce que je vais aller développer et qu'est-ce que je vais aller chercher derrière? Parce que sinon c'est terrible quand on se construit que sur de l'esthétique, d'un coup il ne reste plus rien. Quand on est une femme justement qui est dans la séduction toute notre vie, moi j'ai vu ma maman aussi être une très belle femme, arrivée à la quarantaine, son corps il avait changé, c'est encore une très belle femme, mais du coup elle n'attirait plus les hommes de la même manière. Et bien en fait elle a brillé quoi, ça a été insupportable pour elle. Et du coup, je trouve ça terrible. Donc, il faut anticiper ça, en fait. Il faut s'en extraire beaucoup plus tôt. Il ne faut pas attendre de vieillir. Pour...
Mais parce que, aussi, dans ce qu'on nous renvoie à la gueule par la consommation de notre culture, la jeune femme, je ne sais pas si on dit juvénile, mais en tout cas, la jeune femme est celle à séduire, quoi. Et dans cette inégalité d'avoir, si on parle de, bien sûr de choses très binaires, romantiques, l'homme vieillissant est poivre et sel et a quelque chose d'assuré qui renvoie peut-être à un charme qui est, qu'on consomme en fait par les lectures, les films, les machins. Tandis que lui sortira avec... une femme fraîche, tout droit sortie du paradis des vierges. Et voilà. Et du coup, je pense que les mamans qui ne s'acceptent plus à 40 ans, c'est aussi quelque chose de pas voulu, en fait. C'est pas elles qui ont choisi ça. C'est plutôt comment nous et comment ce qu'on leur renvoie.
Comment elles sont perçues, ouais. Donc, oui. Et dans la culture mainstream, c'est vrai que tu as souvent quand même le beau gosse valorisé de la culture. Dans les films, le beau gosse est valorisé avec ses cheveux poivre et sel et il va effectivement être avec une minette. Et c'est super OK. Et dès que tu inverses ça, déjà, tu as une espèce de terme comme cougar qui va venir, qui est hyper dévalorisant. Enfin, c'est hyper. C'est pas OK du tout. Et ensuite, je trouve qu'on manque encore un peu de modèles assumés. Et c'est peut-être ça qui, moi, aujourd'hui, me traverse, c'est de, OK, j'aimerais bien avoir d'autres meufs et qui me donnent la foi que c'est OK. Ensuite, il y en a, heureusement. Mais c'est vrai qu'elles sont encore... Il faut les chercher. Et ça ne nous aide pas à nous construire. Ensuite, moi, tu vois, jusqu'à quand j'ai le droit de mettre des pom-pom shorts? Jusqu'à quand j'ai le droit de faire tout ça? Jusqu'à quand c'est OK que je suis en teuf, tu vois? Et de me dire, est-ce que je ne suis pas juste en train d'essayer d'avoir une espèce de syndrome de genre, la meuf ne veut pas vieillir? Et tu vois, tu te confrontes à ça parce que tu sais qu'il y a un endroit où on te questionne comme ça. Mais ensuite, je suis là, genre, OK, à la fois, on a envie de les défaire, ces trucs-là. C'est clairement des carcans et c'est clairement complètement patriarcal de nous dire qu'à partir d'un certain âge, ma place, elle est à la maison et rien d'autre. Et de me calmer, quoi. Il y a des textes, comme ça, qui disent
après,
des choses comme ça.
Moi, ça m'est arrivé d'aller dans des événements féministes et de me faire la remarque que la moyenne d'âge était quand même très jeune. Et parce que en fait, il y a plusieurs causes et raisons autour de ça. C'est parce que c'est un mouvement qui est en train d'évoluer, que la nouvelle génération est peut-être plus concernée que celle de 60, 70 ans. Il y a plein de choses. Mais quand même, malgré tout, même dans des milieux concernés, je trouve que la vieillesse n'est pas forcément tout le temps représentée.
Je suis d'accord. De ouf.
Et j'aimerais pouvoir trouver un espace où... en lutte, ou intergénérationnel, en fait, ça serait parfait. Mais bon.
À la Corderie, la dernière fois, quand c'était la dernière émission, j'avais fait des interviews et j'avais rencontré les filles qui avaient lancé les chouettes au départ. Et du coup, elles avaient vachement envie de nous rencontrer aussi. Et c'était hyper intéressant parce qu'elles disaient, mais nous, on avait une certaine vision du féminisme quand on a commencé. C'était assez novateur à l'époque. On avait pas mal d'obstacles sur notre route. Et vous, c'est un peu... tout est... aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus accepté. Et en fait, elle avait vachement envie de nous rencontrer pour savoir quelle était aujourd'hui notre vision du féminisme et comment on peut se nourrir aussi ensemble. Et j'avais l'impression qu'elle avait envie, en fait, un peu de retourner là-dedans, mais qu'elle ne savait pas trop comment faire. Et parce que, justement, c'était une femme âgée, elle se demandait, est-ce que j'ai toujours ma place là-dedans, sachant que moi, je suis un peu dépassée avec MeToo et avec tout ce qui se passe sur les réseaux. Et comme si, elle ne savait juste plus comment participer à ça aussi, quoi. Donc, ce sera sûrement le projet d'une prochaine émission de faire... une émission ouverte comme ça.
Et j'avais envie de rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait que, par rapport à l'acceptation de son corps et au fait que c'est une lutte que de continuer à considérer que son corps est beau et de l'exposer et de continuer à vivre avec sans entrave et sans subir la pression du jugement du regard des autres. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a tout un truc à déconstruire justement sur l'esthétique et la beauté et de considérer que, en fait, pouvoir être bien dans sa vieillesse, c'est pas forcément pouvoir continuer à ce que l'aspect esthétique, ce qu'on renvoie esthétiquement, soit une des bases principales pour les interactions sociales ou pour se sentir bien avec soi-même, mais enfin aussi arriver à faire en sorte que ce soit d'autres choses qui soient socialement et sociétalement valorisées, en fait, que la beauté, et qu'il y a d'autres choses, en fait, d'autres richesses dans les humains humaines que ça, quoi. Enfin, ça me donnait envie de...
C'est vrai, mais c'est à tout âge, ça. Et du coup, en fait, tant que c'est pas déconstruit à tout âge, c'est d'autant plus marquant, le fait de vieillir, parce que, en fait, clairement, c'est le moment où tu te rends bien compte qu'effectivement, il est question de ça. Et je pense, tu vois, juste nos mères, du coup, qui étaient plutôt séductrices, je vois qu'elles se sont pris dans la tronche vraiment d'un coup, qu'en fait, alors que c'est des femmes, ma mère s'est construit une vraie personnalité, elle est plasticienne, enfin, je veux dire, elle a plein de choses à dire, et qui sont plus intéressantes que ce qu'elle paraît. Et en fait, elle a été déconsidérée à partir du moment où elle était plus bonne, en fait, juste. Et pourtant, elle est la même personne avec la même personnalité qui est hyper riche, hyper construite et que je trouve assez fascinante à plein d'endroits. Et du coup, tu es là-bas. En fait, non, la société l'a quand même de fait, à un moment donné, rejetée sur le côté comme plus intéressante du tout. Alors que son discours est le même. Enfin, tu vois, je veux dire, en fait, finalement, c'est d'où ça vient. Est-ce que ça vient de la personne qui, du coup, pour se sentir considérée, passe par les codes de la séduction? Ou est-ce que c'est la société qui te demande de jouer ces codes pour être considérée?
J'ai un exemple de ce type-là pour... une organisation, opération coup de poing un peu en ZAD. Et on se retrouve à une trentaine à table le soir pour organiser une stratégie du lendemain. Et donc tout le monde doit prendre la parole. Donc il y a une majorité d'hommes, des femmes plus jeunes et une femme âgée qui a déjà vécu un bon bagage militant. Et ben en fait, elle n'a pas réussi à placer un mot. En fait, elle n'était pas écoutée. Donc les femmes déjà étaient difficilement écoutées, même dans ce milieu militant. Mais elle, c'était encore plus lisible. Et je me rappelle avoir échangé longuement avec elle après, où du coup, elle se sentait plus du tout à sa place dans cette lutte-là, parce qu'elle avait l'impression, en fait, de plus être dans le coup, de plus être entendue, et de bien se rendre compte que, en fait, ses arguments, plus elle vieillissait, plus c'était difficile de les poser sur la table et de les faire entendre. Qu'elle était invisibilisée, mais par hommes et femmes, en fait. Hein. Ouais. C'était vraiment... c'était hyper dur pour elle. Enfin, voilà.
De toute façon, c'est ce qu'on dit. Généralement, c'est double peine pour les femmes qui sont âgées, enfin pour des femmes, et après qu'elles soient âgées, en fait. Enfin, par exemple, dans les médias ou dans le milieu politique, pour tout, en fait. C'est comme si. J'en peux plus de ça. C'est comme s'il y avait vraiment une espèce de date de péremption. Et après, en fait, on s'occupe plus de toi, quoi. Enfin, t'es dans le fond du frigo et à chaque fois, on dirait il faudrait le jeter, ce truc. Mais en fait, ça reste là. Enfin, la métaphore est absolument horrible.
Je mettrais un astérisque à femmes. Parce que sur les filles de jeunes, il y a un astérisque. Et du coup, quand on parle de femmes, on parle aussi des minorisés de genre. Et voilà.
Attends, juste pour me reprendre sur ma métaphore, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu violent, mais en fait, j'ai vu des comportements aussi qui étaient tellement violents sur des personnes âgées, en fait, que ça me choque aussi. Donc, au début, je voulais retirer ma métaphore, et en même temps, je me dis, bah, bim, dans la face aussi, la violence que se prennent ces personnes-là dans la société.
Faut pas pousser mémé dans les orties!
Bonjour, bonsoir. Normalement, ici, c'est Madame Trottoir qui commence sa chronique. Madame Trottoir dans tes oreilles. Madame Trottoir qui transforme tous les sujets en pot-pourri à base de micro-trottoirs, de digressions, de racontages de vie et de recherches à gogo sur les internets. Mais ce soir, c'est Madame éclatée au sol, parce que je suis à un stade de fatigue très avancé et que ma chronique, ben, aujourd'hui, c'est juste un pot-pourri.
Oh ! T'as fait une tête ! Cicilla, t'es malade ?
Bon, déjà, le problème que j'ai eu pour écrire cette chronique, au-delà du manque d'organisation, qui fait que je n'ai pas de micro-trottoir, je place ça comme ça discrètement pour éviter que le studio me hue. Donc le premier problème, c'était... Non ! Donc le premier problème auquel je me suis confrontée, c'était comment nommer les vieux, enfin les personnes âgées, j'avais l'impression de les insulter quand je dis les vieux, encore pire quand je dis les vieilles. Ou les femmes d'âge mûr, enfin déjà je me suis rendu compte qu'il y avait un malaise parce que je ne savais pas comment les appeler. et même appeler pour de vrai. C'est-à-dire que j'ai eu peur d'appeler mes amis qui étaient plus âgés, et j'avais peur qu'elles se sentent insultées parce que c'est un sujet sur la vieillesse, en fait, et que du coup, je les essentialisais un peu à ce truc-là. Et en plus, le premier truc qui me venait en tête quand je pensais à la vieillesse, c'était toutes les insultes. Donc vieux schnock, vieille bique, gâteux, vieille peau. Donc j'en ai cherché d'autres, histoire d'être bien exhaustive et puis aussi de continuer ma passion Internet. Mais croyez-le ou non, je n'ai pas trouvé d'autres. Par contre, je suis tombée sur des articles qui sont assez fascinants. C'était « Peut-on insulter et rester chic ?» Ou encore un top des insultes rares et élégantes, où j'ai d'ailleurs appris le mot « nodocéphale ». Retenez-le bien, c'est « tête de nœud ». Nodocéphale. Et c'est une insulte précieuse à retenir parce que quasiment toutes les insultes, en fait, elles viennent du discrimination. Donc, par exemple, vous allez me dire à quelle insulte se retrouve cette discrimination. Si je dis garce, salope, garage à bite, fille facile, chienne, mégère, qu'est-ce que c'est?
C'est le patriarcat.
C'est de la
misogynie.
Oui, exactement, c'est de la misogynie. Des insultes qui n'ont pas d'équivalent masculin. Ou par exemple, on a aussi fiotte, enculé. Ça, c'est plutôt
homophobe.
Homophobe. En plus, souvent homophobe. Des insultes qui montrent que c'est pas assez des hommes, et avec l'insulte suprême, en fait, que plus ils se rapprochent d'une femme, et plus c'est plus insultant. Il y en a d'autres aussi qui m'ont questionné, par exemple de dire de quelqu'un qu'il est taré, qu'il est fou, qu'il faut l'enfermer, qui est aussi hyper insultant sur la santé mentale des personnes. Gros tas, baleine, qui est plus grossophobe, sans parler des insultes racistes, validistes, etc. Donc, si vous voulez insulter sans discriminer, pensez plutôt à...
Nodocéphale.
Merci, Nénu, ça suit plus 10 points. Ou alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui ne serait pas discriminant?
Grosse merde.
Exactement, sac à merde.
Grosse, du coup, pas trop, mais...
Ah oui, non, ça ne marche pas.
Juste non, mais merde. En même temps, plus une merde est... Non, proéminente et
belle pue.
Non, mais c'est bien de savoir, en fait, quand on utilise une insulte, qu'on sache au moins qu'on est discriminant, et au moins on le fait consciemment. Je dis pas qu'il faut arrêter les insultes, même si ça, c'est un autre débat, mais... Voilà, bon, bref. Et je me suis rendu compte aussi que rajouter vieux devant cette insulte, ça augmentait, ça amplifiait
vieille
l'insulte,
crotte,
quoi. Vieille crotte ou vieux con, vieille meuf, vieille fille... Donc en fait j'ai un peu aussi cette bipolarité dans la vision de la vieillesse. Donc d'ailleurs pousser mémé dans les orties, on dit mémé parce qu'en fait c'est l'allégorie d'une personne innocente qui ne mérite en aucun cas qu'on la malmène. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu ces deux visions quand on parle de la vieillesse. Il y a d'une part cette espèce de respect qu'on doit de manière innée, en fait c'est normal, on leur doit le respect parce que c'est nos aînés. Parce que du coup, ils ont de l'expérience et parce qu'en fait, ils sont innocents et fragiles, donc il faut en prendre soin. Et d'un autre côté, il y a un énorme mépris, en fait, et une déconsidération et une invisibilisation des personnes âgées, en fait. Et en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, encore plus des femmes âgées qui sont présentées comme périmées, contrairement aux hommes qui deviennent matures jusqu'à un certain stade où là, pareil, ils deviennent aussi inutiles. Ce qui est aussi assez bien. Donc bref, dans beaucoup de représentations, en tout cas dans ce que je vois moi, vieillir c'est perçu comme super négatif et c'est même une maladie contre laquelle il faut se battre à coups d'antirides, de botox, de cures, etc. Et même dans l'idée, vieillir, dans les représentations, c'est ne plus avoir de projets, mais seulement juste des hobbies, des trucs qui permettent de passer le temps avant de mourir en fait. Donc moi, ce qui me faisait peur quand j'étais petite dans le fait de vieillir, c'était ne plus pouvoir jouer au loup, ne plus se déguiser, ne plus jouer sur les passages piétons, devoir marcher sans sautiller, ne plus pouvoir être spontané, toujours être dans le contrôle, ne plus pouvoir inventer des histoires. Et en même temps, je voyais ma mère qui continue à rigoler pour des blagues pipi caca prout, qui m'en faisait aussi.
On comprend mieux le
tout
le
ça
truc,
quoi. Et je me souviens qu'elle était partie en fou rire parce que j'avais mis de la mousse au chocolat sur mes dents. Et puis après, je l'avais vu construire une maison pour des lutins dans un arbre. Pas plus tard que l'année dernière, elle m'a acheté des espèces de strass pour me mettre sur le visage, et elle s'en est mis aussi. Enfin bref, c'est des trucs tout bêtes qui me permettent de penser que vieillir, c'est juste le temps qui passe autour de toi. Et c'est à toi de choisir ce que t'en fais. Et je me suis dit, et si on remplaçait les années par des badges? Ce serait genre trop stylé. En fait, t'as 70 badges, mais trop de chance. Comment tu les as eus, en fait? Est-ce que c'était dur de les avoir? En fait, on peut avoir 70 badges et avoir 30 ans dans sa tête, ou 4 ou 12, en fait. Et de toute façon, c'est pas du tout figé. Ça dépend des endroits, ça dépend du contexte. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui est difficile à faire accepter. C'est que rien n'est figé et que tout évolue. Et en fait, on voudrait figer notre tête, notre corps, et figer les comportements en fonction de ça. Donc à cet âge-là, tu dois faire ça, c'est-à-dire emménager avec quelqu'un, par exemple. À cet âge-là, tu dois avoir un taf stable, tu dois avoir un enfant. À cet âge-là, tu dois pas changer de projet, tu dois pas quitter ton partenaire, tu dois pas partir voyager. Enfin voilà, des choses que, bah, qu'il faut un peu remettre en question. Donc j'ai appelé ma mère aussi pour savoir quelle vision elle avait, surtout que je la voyais comme quelqu'un qui gardait son âme d'enfant constamment. Et en fait, ça m'a fait super mal au cœur, parce que elle m'a dit qu'elle allait avoir 60 ans et qu'elle avait honte, en fait, d'avoir 60 ans. Et qu'elle était terrifiée, comme je disais, d'être rejetée de certains espaces, qu'on la monte du doigt en se demandant ce qu'elle faisait là. Alors qu'en fait, c'est tellement bienvenu en soirée. Enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu as l'impression, quand tu parles avec une personne qui est un peu plus âgée, d'avoir des moments de déclic, en fait, où c'est des conversations un peu plus sincères parfois, et ça fait du bien, quoi. Et je me suis dit... Merde, pardon.
Une feuille est tombée au sol.
Oui, j'avais un peu oublié, en fait, que... Bon, je vous raconterai ça plus tard. Bref, donc du coup, pour moi, vieillir, c'est aussi s'en foutre complètement, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est trop court, en fait, de s'emmerder avec plein de choses qui, avant, étaient importantes et qu'après, on peut trouver un peu futiles, et que c'est justement le moment d'avoir une énorme liberté et on peut redevenir enfant. Et... Enfin voilà, en fait, je pense, par exemple, quand j'étais plus petite et que... Enfin, quand j'avais des poils, je m'interdisais d'aller à la plage parce que je trouvais que c'était horrible et que tout le monde allait les regarder. Et qu'en grandissant, je me dis, mais en fait, j'ai pas envie de m'emmerder à faire ça toute ma vie, quoi. Et une fois, quelqu'un m'a demandé d'ailleurs, imagine, tu te réveilles, t'as 80 ans et demande-toi... Demande-toi à quoi t'aurais passé moins de temps à t'emmerder, en fait. Et je trouve que c'est une bonne question aussi pour se dire, en fait, il y a des choses qui sont futiles et auxquelles on n'a pas besoin de passer autant de temps. Et je trouve qu'en vieillissant, du coup, on acquiert aussi cette sagesse-là, en fait, de voir que bah, ça, c'est futile et on n'a pas envie de gâcher notre vie à continuer là-dessus, quoi. Bref, et finalement, j'ai pris... cette émission m'a permis d'appeler ma grand-mère. Et ma grand-mère, sachez-le, c'est une personne assez extraordinaire. Qui chante tout le temps, avec qui je fais du shopping, etc.
Et donc, on peut avoir son prénom.
Fernande.
Oh, oh.
J'adore.
Et par exemple, tout à l'heure, on parlait de vêtements qu'on peut porter ou pas. Enfin, elle a une garde-robe, mais en fait, elle a deux chambres avec plein de vêtements. Et la dernière fois, elle m'a dit, t'as vu, j'ai acheté une mini-jupe et tout. C'est un peu une mini-jupe de Pop-Up Girl. Elle a 83 ans. Et
Fauve dédicace. Il y a pas d'âge.
Mais oui, et du coup elle porte ça chez elle, elle le porte pas à l'extérieur parce qu'elle dit non mais quand même je vais pas porter ça et tout, mais elle est tout le temps en train de porter des décolletés et tout, enfin elle est incroyable. Et donc je lui ai demandé est-ce que ça te faisait peur de vieillir. Elle m'a dit mais moi en fait je vis l'instant présent. En fait, je suis désolée, j'ai pas enregistré mais j'ai noté ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit mais dans ma tête je suis pas vieille en fait. Enfin, maintenant je fais attention quand je marche et je sais que j'ai vieilli parce que je fais plus le grand écart. Et comme je rapetissais, sachant qu'elle était déjà pas très grande, je suis obligée de lever les bras au supermarché. Mais du coup, elle rencontre plein de personnes parce que bah elle n'arrive pas à atteindre les plus hauts rayons. Et du coup, elle aime trop demander aux gens en fait. Et à chaque fois qu'elle entend, je peux vous aider, et ben elle est toute contente et elle use un peu de ses charmes. Et elle m'a dit donc ça a des avantages en fait de vieillir. Et après, je lui ai demandé, est-ce que t'as des conseils en fait sur pour les personnes qui ont peur de vieillir. Et elle disait de se préparer à la retraite, de vraiment bien s'occuper. Ça va en face de moi? Mais non, mais c'était juste pour être sûre, je ne savais pas si c'était trop bon.
Ah oui, on va bien, nous on va bien. Et quoi?
Ça va super, écoute, je suis là dans mon salon. Et bref, en fait, quand je vais chez elle dans son lit, c'est hyper marrant parce qu'il y a vraiment... Il y a le magazine de Sudoku, il y a le magazine de mots croisés, il y a le magazine de trucs logiques, il y a du chocolat, il y a sa télé où des fois elle chante, etc. Et surtout, elle a 3 paquets de cartes. Et elle dit, bah, en fait, je sais pas si on lit, je joue à la place de chaque joueur, je fais mes mots codés, etc. Même dans les toilettes. Hein. Et ce soir, je vais manger ma petite salade et puis je vais prendre un petit verre de vin. Mais quand les copains ils viennent, là, on ouvre une bonne bouteille de champagne, des cacahuètes, des chips et tout. Enfin, elle me fait trop rire. Elle est hyper épanouie là-dedans.
Est-ce qu'elle a un micro branché à sa télé et elle fait le karaoké des fois toute seule justement, en mini-jupe dans sa chambre?
Mais justement, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, et ça m'arrive de me lever à 4h du matin, je chante, j'essaye des robes, après je fais de l'harmonica.
Ouais, j'adore, mais ça donne
trop fun, ta grand-mère. Oui, elle est trop chouette. Et vraiment, il faut l'inviter en soirée, en fait, elle est incroyable, elle te met l'ambiance, elle te couche aussi. Elle est tout le temps en train de chanter. Bref, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Et puis je me suis demandé s'il y avait des choses qui vieillissaient pas. Chez nous et dans le monde en général. Et je me suis dit que la créativité, la tendresse, l'amour, la spontanéité, la joie, c'était des choses qui vieillissaient pas, en fait. Et je trouve que c'est chouette de se dire qu'il y a quelque chose en nous qui va jamais vieillir. Et bravo, hurrah, bravo les filles de joie.
À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder.
La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite, la retraite.
Les vulves assassines.
La retraite, puisque on est à fond dedans, n'est-ce pas, cette année, encore une fois, et que la retraite, ça fait parler aussi un peu le pan de la vieillesse. Ma chère Nénu, ma vieille collègue, tu nous as préparé des écrits.
Oui, une chronique et deux petite capsule, une que j'ai enregistrée moi-même et une autre qui est que j'ai montée à partir d'extraits d'une émission de radio dont je vous parlerai plus tard et qui m'a beaucoup intéressée, beaucoup fait réfléchir et donné de l'espoir sur le thème de la vieillesse.
Nénu, tu entends les oiseaux dehors ?
Oui.
Alors, sais pas si on peut les entendre.
Je pense que les personnes derrière leur poste de radio n'entendront pas les oiseaux qui chantent dehors.
Alors imaginez juste 2 secondes que le studio de RDWA a les fenêtres ouvertes, que les filles de joie fument des cigarettes au gré du bruit des oiseaux et la fumée danse dans ce bruit. Nénu, ce soir on parle de la vieillesse, ce sont les filles de joie et on t'écoute.
Ok, alors juste une petite phrase avant de commencer. Fumer tue, hein. Fumer c'est pas bien, donc quand on veut vieillir bien, on arrête de fumer. D'accord. Il y a une brochure sur un focusque aussi qui s'appelle « Tu m'es fus ». Alors on s'y met. Demain, on rentre chez soi, on prend la brochure, on la lit. Allez.
Et on va en randonnée.
Voilà. Non, moi, je voulais donc vous parler un peu de moi. Au final, c'est ce que je fais souvent dans les filles de joie. Je vous raconte un peu ma vie et je me rends compte que ça me fait du bien. Et que, comme je le disais tout à l'heure pendant le tour de table, bah, en fait, c'est un peu un thème qui m'habite en ce moment malgré moi. Et je suis contente de partager des réflexions avec vous et qu'en fait, il y ait de la réflexion militante sur ce sujet. Voilà, donc comme Madame Trottoir, j'ai très mal fait mon travail. Je n'ai pas mal fait mon travail. J'ai fait un travail, mais qui est ce qu'il est. Donc j'ai écrit une partie de ma chronique, donc je vais vous la lire. Puis j'improviserai la suite, parce qu'en fait, c'est juste un petit début, il y a plein de choses à dire. Alors, j'avais envie de vous parler ce soir de soins et de militantisme. Moi, je suis restée un peu bloquée sur la thématique de notre dernière émission, le cul entre deux chaises, qui m'a beaucoup parlé et qui m'a inspiré pas mal de réflexions. Depuis que je me suis mise à voir la société comme une chose un peu bancale, le cul à moitié sur une échelle accoudée au vide et à moitié sur un vieux tabouret en bois, j'ai l'impression qu'en 2-3 siècles, en fait, les structures sociales ont carrément changé, que tout est allé très très vite. L'industrialisation, le capitalisme et la sacro-sainte idée du développement progrès a dézingué pas mal de valeurs, pas mal de coutumes et d'habitudes qui avaient elles-mêmes dû prendre des siècles à se forger. J'ai l'impression qu'avant, tu naissais quelque part au milieu d'une famille plutôt nombreuse et que tu restais là toute ton enfance à vivre avec les parents, les grands-parents et tu pouvais même avoir les arrière-grands-parents qui traînaient par là. T'avais un métier, peut-être au village ou à la ferme, et puis tu finissais par te marier avec un gars ou une meuf du village d'à côté que t'avais rencontré au bal du dimanche. C'est une vision plutôt stéréotypée, mais c'est quand même ce qu'on m'a répondu la plupart des vieux et des vieilles que j'ai pu côtoyer et à qui j'ai posé des questions. J'imagine tout de même qu'une multiplicité de modèles familiaux et des parcours de vie individuels prenait forme à cette époque-là. Mais ce que j'aimerais retenir de cette période et mettre en résonance avec la nôtre, c'est qu'à ce moment-là, les vieux et les vieilles, elles étaient au milieu de ce monde et je ne crois pas qu'on les enfermait dans un EHPAD pour leur fin de vie. Bon, plus tard, il y a eu le modèle de la famille nucléaire, l'avènement de la voiture, la télévision, fini le lavoir, il y a eu la machine à laver le linge, les lotissements, les Stones, les hippies, les décolonisations, la guerre en Irak, les néocolonisations, les réseaux sociaux, Darmanin le violeur comme Premier ministre. Je ne sais plus s'il est Premier ministre ou ministre de l'Intérieur. Une réponse par ici ?
De l'Intérieur.
Bref, il y a eu pas mal de choses entre chaque truc. Et je me suis dit, et maintenant ?
Alors, qu'est-ce qu'il pleut, hein ?
Il pleut.
Ici, il n'a pas trop plu jusqu'à maintenant. Mon frère, je ne le vois jamais, c'est sûr.
Ouais.
C'est pas lui qui... Oh là là! Tu sais, mais des fois, ça me fait une colère. Ce matin, je le voyais traîner, mon frère, là-dedans. J'ai cru qu'il venait prendre de mes nouvelles. Mais penses-tu, il venait me dire qu'il attendait pour... On devait lui faire sa prise de sang. L'infirmière n'était pas venue, alors il venait voir s'il était venu chez moi. Et il pouvait pas déjeuner, il n'avait pas... Et oui, parce qu'il fallait qu'il soit jeune. Mon Dieu, j'ai dit, mais c'est pas vrai, quel con celui-là. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Et tu crois qu'en même temps, il m'aurait demandé comment j'allais, moi. Pou, il s'en fout pas mal. Rien. C'est ça a été l'enfant gâté, là. Et il croit que tout lui est dû. Mon Dieu, avec ce que j'ai fait pour lui, moi. Pendant 20 ans, il est venu tous les dimanches manger avec moi, hein. Quand ma maman n'a plus été là. Tous les dimanches, il venait manger. Alors, je l'avais dit, il m'apportait une tarte. Et s'il en restait un morceau, il le prenait pour son souper le soir.
Il ne le laissait même pas.
Oh non, il ne me le laissait pas. Mais voilà comment il est, l'enfant gâté, là. Alors là, il a des locataires, là, en bas. Quelqu'un qui m'a beaucoup manqué, c'était Nicole, qui habitait là. Ben.
C'était une amie à toi, Nicole.
Oh là. Sitôt qu'elle était levée, elle venait voir comment j'allais. Et le soir, attention, elle venait aussi voir si j'avais... Hop, Nicole. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Alors moi, je prends des cachets, bien entendu. Il ne faut pas que j'oublie de les prendre. Mais l'infirmière, le matin, elle me marque bien tout. Avant de partir, si j'ai des cachets à prendre, elle attend que je les ai avalés. Je lui ai dit, de quoi vous avez peur, que je les prenne pas ou que... Oui, mais elle m'a dit, non, non, c'est pour voir s'ils passent bien. Elle doit avoir peur, il y a des gens qui les prennent peut-être
oui,
pas.
Il y a des gens qui les prennent pas.
Alors elle attend.
Ouais.
Elle attend que je les ai pris. Oh, alors j'ai les yeux qui m'agacent, qui me... Bon, je marche qu'avec une canne, et autrement, je peux pas marcher, là.
C'est les genoux qui te font mal.
Ils me font même bien mal, des fois. Moi, je suis bien que lorsque je suis bien allongée, là aussi, alors comme ça. S'habiller, se déshabiller, tu sais, quand tu es tout seul. Il y a des choses difficiles. Mm. Tu en arrives à dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais sur Terre? Je sers à rien. Qu'est-ce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu ta maman, mais...
Combien de temps, tu penses?
Hein?
Combien de temps?
Je ne sais plus.
Une année?
Ah, peut-être. Je ne me rappelle plus. Le temps a tellement passé.
Je crois que dans ces situations-là, il n'y a que ceux qui y passent qui savent, quoi. Ceux qui n'y passent pas ne peuvent pas se rendre compte. Moi, je sais que mon père, je l'ai beaucoup aidé, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. On serait, tu vois, accompagné avec quelqu'un. Ça serait différent pour les enfants. En couple, ça serait différent.
Mais en couple et puis avec des enfants plus âgés, mieux établis.
Par contre, moi, j'ai toujours dit une chose, il vaut mieux avoir des remords que des regrets.
J'ai jamais compris la différence entre les deux, moi.
Les regrets, on en a tous quand on vieillit, mais les remords, ça te ronge.
Vous avez entendu les voix croisées de ma mamie Blanche, et de ma maman, racontant leurs souffrances, leurs interactions avec leur voisinage, leur prise de médicaments, leurs interactions avec les membres du corps médical, souvent les seules personnes qu'elles voient au quotidien. Au final, à travers ces mots, on entend surtout l'étendue de leur solitude et le désespoir qu'elle fait naître. On se pose la question, qu'est-ce que je fais sur cette planète? À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 25 ans. Mon père est alité depuis plusieurs semaines et en souffrance depuis plusieurs mois à cause d'une angiodermite nécrotique. Ma mère est partiellement invalide et dépressive. Elle vit seule et vit un handicap dans une société validiste qui n'en a pas grand-chose à faire des personnes comme elle. Et s'il y en a qui s'en préoccupent, elles ont peu de moyens et se trouvent souvent au bord de la crise de nerfs. Ma mamie, elle vit proche de membres de sa famille mais se trouve seule la plupart du temps à regarder le paysage à travers de la baie vitrée. C'est pas l'ambiance. Tous vivent en des lieux différents. Moi, j'ai 25 ans, je me sens à la fleur de l'âge, mes parents m'ont eu tard et je commence à peine à sentir que je construis des choses pour un avenir, une stabilité émotionnelle et psychologique. Pourtant, évolution de la société font que c'est maintenant que je dois intégrer le paramètre du soin à apporter à ma famille et qu'il faut que je compose un peu entre le mode de vie que j'aimerais avoir, le mode de vie que le capitalisme me pousse à avoir et les espaces-temps de mes proches. Souvent, je me sens bancale dans ce soin, pas toujours suffisamment présente, suffisamment mature, suffisamment prête. Donc là, c'est la fin de ma chronique écrite. Mais je vais continuer à improviser la suite. Et là où je voulais en venir, c'était de parler de toutes ces injonctions qu'on a évoquées la dernière fois dans notre dernière émission sur le cul entre deux chaises, et notamment sur les injonctions liées à ce système économique et social qui est le capitalisme, qui nous pousse à vivre dans des endroits différents, à être très mobile, à être très productive, et surtout, à rentrer dans un système laboral. Et c'est toute cette organisation sociétale-là qui, à mes yeux, cause une espèce de déperdition de la valeur famille, ou si ce n'est de la valeur famille, de la valeur solidarité, et du fait qu'on puisse disposer du temps et d'être proche pour pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin, notamment les personnes âgées. Et moi, voilà, je me sens complètement bloquée en fait entre deux mondes, qui est le monde des anciens, donc qu'a connu ma grand-mère, où en fait on ne laissait pas tomber les vieilles personnes, où le soin était de fait quelque chose d'évident, qu'on n'allait pas forcément réfléchir. Alors peut-être qu'il pouvait être mal fait, peut-être qu'il pouvait être fait moins en conscience, mais il n'empêche qu'il était fait. Et en même temps, dans un monde qui est le monde où je vis maintenant, où voilà, je l'ai déjà écrit, mais mes parents m'ont eu tard. Et en fait, ça génère un phénomène, c'est-à-dire que ces préoccupations-là du soin, il faut les avoir aussi plus tôt, à un moment où sa stabilité à soi, on ne l'a pas forcément construite. Donc je tiens à dire, parce que je sais que probablement mon papa m'écoute, je tiens à lui dire que il n'y a aucun souci, que ça me fait très plaisir en fait, d'apporter ce soin-là. Et que dans tous les cas, je le ferai. Mais, enfin voilà, du coup, je voulais parler de ces problématiques-là. Et aussi du fait que moi, dans ce qui me pousse et ce qui m'anime dans la vie, il y a beaucoup les questions militantes. Et je me rends compte, en devant porter soin aux gens de mon entourage, que je suis souvent sur 1000 fronts, sur 1000 luttes ailleurs, sans me rendre compte qu'il y a aussi ces luttes-là qui sont très proches de moi et de mon intimité. Et je sens que si j'y vais pas à bras-le-corps, c'est aussi parce qu'en fait, j'ai peur, moi, de me retrouver seule dans ce soin-là, dans le soin à apporter aux autres. Et en fait, j'avais envie voilà, d'évoquer ça pour aussi inviter tout le monde en fait, à construire des réflexions là-dessus. Et je crois que moi, ce qui me donne espoir, en fait, dans toute cette gestion-là de comment on se positionne soit dans le monde, soit dans la société, et soit vis-à-vis de sa famille, ce qui me donne l'espoir, c'est de me dire que les choses peuvent être prises en charge collectivement. Et j'ai l'impression que nous, on essaye de... Enfin, nous, ça ne veut rien dire, mais moi et les personnes avec qui j'ai des affinités politiques, on essaye de déconstruire des modèles qui ne nous vont pas dans la parentalité, dans plein de domaines, et qu'en fait, tout ça, c'est possible quand il y a du collectif derrière, parce que sinon, en fait, on s'épuise parce que les changements de mentalité ne sont pas encore faits, que tout n'est pas abouti, qu'on est en fait dans une espèce de grande transition, et que dans cette transition-là, on en connaît plein qui sont en burn-out total, qui saturent, qui pètent des plombs, qui n'arrivent pas à gérer, voilà, parce que c'est un gros, gros chantier et qu'on a besoin d'aide. Et du coup, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et donc, quelque chose qui m'a beaucoup animée, donc c'est d'écouter une émission sur France Culture dans une émission, dans un épisode du coup, dans une émission qui s'appelle L'Expérience, qui est une nocturne, et l'émission s'appelle, Les Dames de la Maison d'Isis, ou comment échapper de l'EHPAD. Et c'est un collectif en fait que des femmes qui décident de construire un habitat collectif pour vivre ensemble et vieillir ensemble. Sauf qu'en fait, c'est une quête semée d'embûches et un projet pas difficile. Voilà, donc j'ai piqué quelques extraits et je vous laisse écouter ça.
Bon, tu te sens comment après cette petite gym?
Eh bien, il faut dire que c'est très agréable. C'est bien, puis avec les copines aussi. On boit un café, on refait le monde, parce qu'il y a du boulot en ce moment. Et puis après, on passe à la gym. Alors, dans le monde qu'on a refait, on a fait surtout pour que localement, notre projet soit pris en compte. Et que les gens comprennent, enfin, et nationalement aussi, cette prise en compte des désirs et surtout des besoins des personnes comme nous. Parce que pour le moment, on arrive à bouger, à être chez nous et tout. Mais après, ça serait tellement chouette que l'on puisse être les unes à côté des autres, se sentir proches et en sécurité.
En 2010, j'ai commencé à penser, bon, j'étais seule, mes enfants étaient loin, puisque mon mari était décédé en 2003. Et j'avais des copines qui étaient seules eux aussi. Et je me suis dit, c'est bête de rester chacune chez soi, est-ce qu'on ne pourrait pas se rapprocher pour vivre ensemble? Donc j'ai vu avec des copines surtout militantes ou les plus proches au début. Et puis, alors, j'avais commencé à écrire un livre. J'avais mis la maison d'Isis, parce que Isis, c'était le nom qu'on avait donné à une petite chienne, parce que Isis, c'était la déesse qui avait rassemblé les os épars de son mari. Alors, mon mari avait dit, bon, rassembler des os pour un chien, c'est ce qu'il faut. Et moi, j'ai repris l'idée, parce que rassembler les membres épars pour en faire une unité et quelque chose de vivant, je trouvais que ça s'adaptait bien au projet. Alors, c'est parti comme ça. À l'heure actuelle, on est 11 futures habitantes. Pour le moment, on n'est que des femmes. On a eu dans le temps un monsieur, on a eu un couple, mais maintenant, on n'est plus que des femmes seules. Voilà.
Et vous avez entre quel âge et quel âge ?
Alors, à l'heure actuelle, on va de 67 à 85 bientôt. J'avais commencé un cahier le 1er juillet 2010. Il faut être prête à diminuer son espace de vie et j'ai pour ma part commencé à y songer en essayant de vider le superflu de ma maison. Les vides greniers, ventes sur Internet, dons aux Emmaüs ou déchetteries pour ce qui n'a plus de valeur sont déjà un bon début. C'est une démarche qui n'est pas facile et que nous n'avons pas à laisser à nos enfants. Il leur en restera suffisamment à faire.
Quelle est l'image de la maison d'Isis ? Qu'est-ce qu'elle véhicule ?
C'est l'image de femmes décidées, de femmes volontaires, et qui veulent arriver à ce but qu'elles se sont octroyées, c'est de pouvoir vieillir ensemble et de vieillir confortablement le plus possible dans un environnement qu'elles ont choisi. Nous, on milite pour ce type d'habitat et tout, parce que les petits et les moyens revenus, ne serait-ce que dans le département, sans aller au-delà, il y a pléthore. Si on arrivait à faire comprendre que c'est ce type d'habitat pour les seniors qui pourrait permettre aux gens de vivre non isolés et de vivre bien leur vieillissement, c'est aussi un des objectifs de la maison d'Isis. C'est une autre vie qu'on espère avoir et qu'on espère arriver à faire aboutir.
Moi, je ne veux pas aller en EHPAD. Je ne veux pas. On peut toujours se dire, je ne veux pas. Les retraites des femmes sont inférieures, en moyenne. Alors, est-ce que dans le fond, c'est aussi une motivation ? C'est un constructeur social qu'on va chercher. Sinon, tu vas chez des EHPAD de luxe. Tu as bien vu tous les scandales. Donc, moi, depuis longtemps, je sais que je ne vais pas être en charge des enfants. Donc, je me disais, il faudrait bien que tu finisses par y aller. Si tu vieillis, aller en EHPAD. Et ce projet nous évitait d'aller en EHPAD, parce qu'on est toutes convaincues qu'on sera mieux entre nous que dans un EHPAD. C'est pour ça qu'on continue, qu'on se bat. On connaît, parce qu'on a eu des parents, parce qu'on a eu des amis en EHPAD. On est allé les voir. Bon, on se dit, c'est bien, mais si on peut longtemps rester à domicile, chez soi quand même.
T'en es où alors ?
J'en ai à rien. Sauf qu'on est en train de se dire que on va inventer l'habitat éclaté. Comment être solidaire dans l'habitat éclaté ? Puisqu'on n'arrive pas à avoir un habitat commun.
Tu sais pourquoi vous n'y arrivez pas ?
Je pense qu'on est mal parti et qu'on est mal catalogué parce que des vieilles emmerdeuses, quoi. Qui empêchent de tourner en rond, qui veulent pas les trucs tout faits avec les vieux d'un côté et les pauvres de l'autre. Vouloir participer, être acteur de sa vie et pas qu'on nous fasse les trucs tout faits. Dans le projet, quand même, les gens qui avaient le plus de revenus payaient plus. Et du coup, ça permettait à des gens qui en avaient moins de faire participer aussi au projet. Donc, il y avait bien la mixité, je ne dis pas sociale, mais mixité de revenus. Voilà. Et moi, ça m'enthousiasmait, ça. Ça est toujours ma philosophie. S'il y en a une d'entre nous qui ne peut pas, je ne veux plus participer de ce projet. Voilà. Donc, bah, tout le monde s'est rallié à ça, hein, de toute façon. Voilà.
Parce que sinon, vous auriez pu, en fait.
Ah, je pense qu'on aurait pu si ceux qui ne pouvaient pas payer ne venaient pas. Oui.
Ça, c'était hors de question.
Ah, pour moi, c'était hors de question. Même pas. Ça faisait partie de l'essence du projet pour moi.
Voilà. Je crois que c'est pour ça que je vous aime, en fait.
Ouais. Le premier truc, c'est la vieillesse, c'est l'horreur. Bon, je ne devrais pas généraliser. En tout cas, moi, je ne suis pas là-dedans. pour moi, la vieillesse, c'est une autre partie de ma vie, mais qui est autre, mais c'est être vivante. Voilà. Et ça, c'est de plus en plus fort chez moi, ça. Voilà. Et c'est, je veux être auteur de ma vie jusqu'au bout. Consentir à ce que je suis, à mon corps, à mon esprit, à ce que je vis, tout ça. Consentir, j'aime bien ce mot-là. Et puis, avec ça, vivre. Et vivre, c'est pas à pis-aller. C'est avoir du temps, c'est presque plus de contemplation, plus d'écoute.
Et ça, c'est grâce au groupe, tu crois ?
Pas que. Mais le groupe est un lieu où c'est dit. Oui, j'ai envie de dire ça. C'est dit et partagé. Avec des combats, parce que tout le monde n'est pas forcément là-dedans. Mais quand même, il y a une évolution du groupe. Moi, ça m'intéresse.
Et le fait de vieillir, ça te fait peur, toi ou...
Non, parce que moi, de toute façon, il y en a qui ont peur de vieillir. Non, parce que moi, si tu veux, avant, je m'aimais pas. Toi, avant. Moi, je me trouvais, je sais pas comment te dire. Maintenant, je suis plus à l'aise, je suis plus toi. Et maintenant, je m'aperçois que quand même, que beaucoup de gens, toi, m'estiment pas. Et là, je suis contente. Et je préfère ma vie maintenant que j'ai eue dans le temps.
Ça donne de l'espoir, parce qu'on dit toujours que prendre de l'âge, c'est une catastrophe.
Bah oui. Puis de toute façon, à chaque fois quand je dis mon âge, oh, bah, vous le faites pas, vous faites plus jeune. Alors, bien sûr, tu te... Ça se groupe. Et oui, non, mais bon. C'est vrai que je suis un paquet de nerfs. Bah, j'ai toujours été comme ça, hein, de manière. Je ne peux pas changer. Hein. Enfin, j'essaie de changer, mais je ne peux pas. Ah non, parce qu'avant, moi, j'étais très renfermée. Hein. Quand j'étais même avec mon mari, hein. Moi, je voulais voir personne. J'étais. Non. Il n'y avait que mon mari. C'est tout. Enfin, mes enfants, tout ça, mais je ne sortais pas. Je me trouvais, je ne sais pas. J'étais complexée, j'étais. Voilà. Maintenant, j'ai beaucoup changé. Enfin, je vois plus épanouie quand même, tout ça, tu vois. J'ai évolué, quoi, voilà. Donc, ça m'a fait du bien. Autrement, du temps de mon mari, non. Hein, je ne m'aimais pas.
Et maintenant ?
Maintenant, oui.
Jusqu'à maintenant, si on peut rester seul et s'entraider, c'est notre but, ça.
Et pourquoi c'est si compliqué, alors ?
Eh bien, c'est si compliqué parce que c'est toujours une question d'argent. Moi, j'en ai pas du tout.
Est-ce que tu as l'impression de faire de la politique quand tu participes à ce projet ?
Non. Pour moi, se battre pour les personnes âgées, pour moi, c'est pas politique, c'est normal. C'est normal. J'aimerais ne pas passer par la politique pour ça.
Qu'est-ce que c'est que vieillir ? Et est-ce que c'est que des choses négatives ?
Ah non, pas du tout. Je pense personnellement, c'est coudre ensemble les divers morceaux de sa vie. Chez tous les âges, je crois que être vieux, c'est ça, c'est avoir tous les âges en soi. C'est avoir l'émerveillement de l'enfant et quelque chose s'ouvre, c'est la joie. Et dans la maison d'Isis, il y a cette joie. Et je pense à, dans l'être de prison, les mots d'Antonio Gramsci, le pessimisme de la pensée doit nourrir l'optimisme de l'action.
Et est-ce que ça fait partie de l'optimisme de l'action de créer la maison d'Isis ?
Je pense. C'est-à-dire, je comprends pleinement la conclusion du mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Il faut être un Sisyphe heureux. C'est-à-dire qu'il faut accepter de monter la pierre comme on le peut. Mais je sais qu'elle redescendra toujours. Il n'y a pas de lendemain qui chante. Il n'y a que ce que l'on fabrique jour après jour. Et ça, c'est très dur de l'accepter. De continuer le chemin.
Le chemin va donc être dur, mais c'est sûr qu'il sera riche et qu'à plein de moments, il sera aussi chargé de joie. Voilà, donc c'était un super documentaire qui a été réalisé par Laure-Hélène Plancher et créé, on va dire, par Stéphane Mercurio, les dames de la maison d'Isis ou comment réchapper de l'EHPAD. Voilà, dernier mot avant qu'on puisse discuter. Papa, maman, si vous m'écoutez, je vais essayer de dealer entre toutes les injonctions de tout ce monde-là. Et puis collectivement, on trouvera des solutions. Et promis, si vous ne voulez pas aller dans des maisons collectives, il n'y a pas de souci, on n'ira pas dans des maisons collectives. On s'arrangera autrement. Voilà.
Merci Ninu, c'était... Merci. Je sais pas, c'était hyper inspirant, c'était beau. Et en fait, ça m'a fait penser à un million de choses. Donc je me permets en fait de manière complètement autoritaire de prendre la parole.
Arbitraire, tu veux dire?
Oui, arbitraire, pareil. En fait, ça m'a fait penser à une phrase qui a été transformée de Gandhi. Et donc la phrase transformée, c'est « On juge une société à la manière dont on traite les vieux ». Et voilà. D'ailleurs, je me disais qu'on n'avait pas forcément parlé de toute la maltraitance aussi que subissaient les vieux. Il y a un numéro qui s'appelle, enfin c'est le 3977 pour enfin si vous êtes témoin de personnes âgées qui sont maltraitées ou si vous êtes une personne âgée qui est maltraitée. Et en fait malheureusement il y a, enfin c'est aussi parce que le numéro devient de plus en plus accessible, enfin pas accessible mais connu. Utilisé. Ouais. Que en fait il y a de plus en plus de maltraitance en fait là-dedans, notamment aussi on n'a pas parlé du Covid, mais évidemment ça a été une énorme claque aussi pour toutes les personnes âgées. Et c'est un peu en mélangé, mais cette phrase justement de qu'est-ce que je fais sur cette planète, elle m'a vraiment marquée parce qu'en fait c'est des choses que j'entends aussi chez les jeunes qui sont en dépression ou qui sont juste complètement perdus. Et il y a des ateliers justement qui font, enfin des ateliers philo entre des jeunes, des ados et des personnes âgées. Et j'ai l'impression que c'est deux thématiques qui sont très, très prenantes dans ces deux générations-là et qui font mal au cœur. En fait, la dernière fois, justement, il y a une femme qui me disait, mais en fait, dans un corps humain, par exemple, une cellule qui ne sait pas à quoi elle sert, elle peut devenir une cellule cancéreuse. Et en fait, un être humain qui a l'impression d'avoir aucune utilité, part en dépression ou se suicide, en fait. Et je trouve ça hyper dur, en fait, de se dire, juste pour que la planète soit vivable, je suis partie dans complètement autre chose, mais pour que la planète soit vivable, il y a un million de comment dire, enfin, ça se passe au millième près pour le pourquoi il y a eu de la vie sur Terre, quoi. Et du coup, le fait d'être sur cette planète, c'est complètement incroyable. Enfin, en fait, t'as déjà réussi ton voyage pour être vivant et se demander, genre, mais qu'est-ce que je fous là? Et je sers à rien, mais c'est... Ah, mais ça me fend le cœur, quoi. Et je trouve ça hyper dur. Et je trouve ça trop chouette, justement, cette réponse du collectif dans la manière de vivre après en vieillesse. On parlait de ça un peu en off. Sur tout ce qui est en train de se mettre en place. Et j'ai un ancien collègue ami. Lui, son rêve, c'était de créer un EHPAD avec des personnes réfugiées. Et donc, en fait, les personnes réfugiées s'occuperaient des personnes âgées et les personnes âgées s'occuperaient des enfants des personnes réfugiées et du coup, pourraient leur transmettre plein de choses. Et en fait, c'est plein de différents... Enfin, ce qu'on appelle des problèmes qui, en fait, réussissent à se nourrir entre eux. Et ouais, je pense que c'est un peu mon rêve aussi de voir plein de lieux comme ça. Des lieux collectifs avec du mélange.
Faut pas pousser bébé dans les orties quand elle n'a pas de culotte.
La la la, la la la.
Éveille Dieu con.
Chantal.
Ah là là.
Ouais, à la campagne, y'a que ça des mémés et des orties.
Gna gna gna, gna gna gna.
Depuis le temps que tu entends ça.
Gna gna gna, gna gna gna.
Est-ce que ça ne te saoule pas? La, 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 la.
Parce que j'ai la pensée de dire que s'occuper des personnes qui sont avancées dans l'âge, c'est un truc où j'ai l'impression dans la société occidentale, c'est quelque chose qui n'est pas normal ou qui n'est pas valorisé. Du coup, on relaie ça aux institutions comme on relaie les enfants, par exemple, à l'école. Du coup, là, soit les personnes sont isolées et sont... vivent une sorte de déjà faim, soit elles sont du coup pour ceux qui ont les moyens dans les EHPAD. Oui, dis-moi.
Non, c'est pour après.
Et moi, par exemple, je sais qu'ayant de la famille au Maroc, le devoir aux plus âgés fait partie du cycle de la vie. C'est-à-dire que je vois beaucoup plus
Je sais qu'on respecte aujourd'hui les gens vieillissants ici, mais je pense que là-bas, ils ont une sorte de place, de figure, en fait, au sein de la société, dans la rue, etc., où, en fait, on leur doit et on les écoute. Et, en fait, cette dévotion, elle est au cœur de la famille, c'est-à-dire c'est normal, en fait, d'aller donner du soin à la personne qui t'a donné la vie, qui t'a donné tout ce que tu avais. Alors, ça peut paraître contraignant parce que c'est un devoir, mais quand on parle de collectif, en fait, ça résonne dans le sens où aujourd'hui, dans notre société française, on a besoin d'éclater, en fait, enfin, en tout cas dans les revendications de remise en question des relations humaines, amoureuses, amicales et de famille, en fait, j'ai l'impression qu'on a besoin d'éclater ce truc de famille et de revenir à un collectif qui serait plus sensé, qui serait mieux réparti, qui donnerait plus d'espoir à quelque chose de réussi, et que du coup, dans cet individualisme grandissant depuis le capitalisme, on pourrait en fait s'épanouir davantage que de se cantonner à la famille. Et je pense que les sociétés orientales, en fait, il n'y a pas de dichotomie entre l'Orient et l'Occident, pardon, mais juste par exemple, après la Méditerranée, quoi, il y a le Maghreb, et c'est ce que je connais. Mais du coup, il n'y aurait jamais cette idée de collectif, je pense. Je pense que les vieilles personnes se passent du temps ensemble, boivent le café, refont le monde, etc., ont une sociabilité. Mais ça reste dans la famille, en fait. C'est les enfants qui doivent prendre soin d'eux. Et j'ai l'impression que voilà, ce bousculement de modèle, là, aujourd'hui, vu qu'on est dans des... comme tu as dit, en fait, toi, c'était un peu ta réflexion de dire... voilà, on a une vie et en même temps...
On a à la fois une éthique, il n'y a pas tout le monde qui est là, mais il y a des éthiques qui se confrontent à des modes de vie, à des perspectives d'avenir, et des fois ça ne roule pas, ça ne va pas ensemble. Enfin, c'est dur de faire correspondre ces éthiques avec sa vie pratique, en fait, je trouve, dans ce système-là.
Bah, surtout quand, par exemple, c'est tes parents qui ont été... Enfin voilà, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, mais je sais pas, ils ont été hyper violents ou complètement maltraitants. C'est difficile aussi de se dire qu'après tu vas passer autant d'années à t'occuper d'eux alors que t'as passé une partie de ta vie à essayer de surpasser ces traumatismes-là. Et c'est là où le collectif prend toute sa place aussi. C'est pas que dans la cellule familiale parce que t'as pas forcément choisi et t'as pas forcément envie de les abandonner. T'as envie quand même qu'ils aient le droit de vivre dignement, mais en même temps toi tu peux pas assurer ça quoi.
C'est pour ça qu'il faut régler ses problèmes avec ses parents le plus tôt possible. Non, je rigole, c'est un peu. Non, je rigole pas, mais. Mais non, mais c'est parce que ça... moi, ça me fait penser aussi. J'ai eu une discussion récemment avec ma mère, bien avant de savoir qu'il allait avoir cette émission, autour de la vieillesse, et elle m'a fait part, elle m'a. Comme un secret, elle s'est vraiment confiée à moi, comme si elle me confiait un secret, mais une forte inquiétude, du coup. Elle m'a confié qu'en fait, elle avait hyper peur du moment où elle allait plus pouvoir être autonome. Et elle m'a vraiment dit, Lucie, s'il te plaît, ne me mets jamais en EHPAD. Mmh. Elle me l'a confié comme ça. Et je lui ai dit, écoute, maman, si c'est ton souhait, je le ferai pas. Et je le ferai pas ni moi, ni mon frère, ni ma sœur. Et je ferai tout pour être avec toi, pour t'aider. Et même si je ne sais pas faire, parce que c'est toi qui as pris soin de moi pendant toute mon enfance. Et voilà, j'apprendrai et je ferai de mon mieux, en tout cas. Mais c'est vrai que ça m'a fait peur aussi qu'elle me dise ça, quoi. Je me suis dit, mais waouh, elle a à peine 60 ans. Elle a 59 cette année. Je me suis dit, mais waouh, et en fait, c'est vrai que c'est sûrement un âge, la soixantaine d'années, où tu commences à réaliser, à te dire, ouais, ok. Et puis, je pense que quand tu perds tes propres parents aussi, et voilà, moi, mes grands-parents sont décédés il y a quelques années, mais ils sont jamais allés en EHPAD, ils ont été chez eux jusqu'à leur mort. Et en fait, je crois que c'est quelque chose que. Enfin, j'ai senti que c'était vraiment intense pour elle, quoi. Elle ne voulait pas. Elle voulait vraiment pas ça, quoi. Et voilà.
Et ben, tu sais quoi, ça tombe bien. J'ai vu une annonce il n'y a pas très longtemps à Die d'une coloc de seniors. Ah ouais. Donc j'ai vu qu'il s'est géré vers Valdrome. Il y a un lieu, c'est un couple qui ont un enfant et qui viennent du milieu, en fait, EHPAD, soins auprès des personnes âgées, qui proposent d'accueillir des seniors chez eux et de vivre une coloc intergénérationnelle. Okay. Donc, pour ta maman, si ça peut la rassurer par la suite. Pour revenir un peu à tout ce qu'on disait, juste... je pense que, effectivement, selon un peu l'histoire familiale qu'on a vécue, ça peut paraître impossible de s'occuper de ses parents pour certaines personnes. Enfin, par exemple, typiquement moi, je ne me vois pas du tout m'occuper de mes parents pour tout un tas de raisons. Et c'est là où, justement, le collectif, il amène une espèce de neutralité de vie. Et il peut permettre, justement, d'accompagner quelqu'un qui aurait pu être abject avec ses enfants horribles, ben, en fait, que le collectif qui n'est pas fils, fille ou petit-fils ou petite-fille en fait soit là et ne connaissent pas forcément l'histoire et des conditions d'éducation de cette personne-là auprès de sa famille et qu'elle puisse en fait ou qu'il puisse l'accompagner paisiblement quoi.
Alors je te rejoins complètement sur la difficulté moi que j'aurais émotionnellement à m'occuper de mes parents. Mais typiquement, moi, ma mère vient du Maghreb aussi, où du coup, ils étaient plusieurs enfants autour de leurs parents. Et je trouve qu'ils ont vécu du coup le deuil de leurs parents et l'accompagnement, en tout cas jusque-là, qui était hyper collectif, en fait, de fait. Et là, moi, je suis fille unique et je sais que ma mère, genre, c'est mort que des étrangers ou des personnes... Enfin, tu vois, tu peux pas non plus leur imposer ton idée du collectif à dire, bah, moi, en fait, je me sens pas de le faire, mais puisque l'EHPAD ne nous conviendrait ni à toi ni à moi, est-ce que, tu vois, genre, à quel moment tu peux leur imposer aussi finalement, cette espèce de choix... Moi, ça me questionne, parce que du coup, effectivement, ils sont vieillissants, vraiment. Que je vois que ça pointe, ces questions-là, et que je sais que, genre, si elles débarquent demain, genre, qu'est-ce que je fais? Et je me sens émotionnellement pas du tout capable de le faire. On n'est pas 6 ou 7 autour d'elles. Tu vois, il n'y a pas, genre, plein de frères et sœurs, et genre, vas-y, on gère le truc. Et que comment... Enfin, tu vois, genre, en fait, il y a un moment donné aussi, il faut être dans le respect de ce que la personne veut... Et je sais qu'elle n'aura pas du tout envie d'étranger, que le collectif, ça ne va pas du tout lui donner envie à cet endroit-là. Donc, tu vois, je suis un petit persuadée de genre, ça pourrait vraiment être la solution pour nous deux et pour le bien fondé et que ça se passe bien entre nous et que moi, je puisse venir et avoir du plaisir à choisir les moments où je viens te voir. Est-ce que tu crois que tu peux l'obliger à ce mode de tu vois? Donc, comment tu fais pour encore négocier avec tes parents sur, du coup, ce qui leur... Enfin, ça leur appartient aussi. Donc, comment
Ah, comment vaste question. Ben, il y a peut-être plusieurs solutions qui peuvent exister, notamment parler de nos propres besoins aussi à nous en tant qu'individus, en tant qu'enfants. Il y a ceux de nos parents, mais il y a aussi les nôtres. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus vouer notre existence et à accompagner nos parents intégralement. Comme nos parents, ils ont fait comme ils ont pu pour nous élever aussi dans leur... indélicatesse ou leur excellence, peu importe ce qu'on a vécu. Mais je pense qu'il y a aussi un moment, il ne faut pas s'oublier et ne pas se respecter et arriver aussi à poser ses propres conditions et que ce soit entendable aussi pour eux. Je pense que c'est là aussi où notre société, elle peut évoluer, quoi. Sortir un peu de ces schémas très traditionnels de devoir parental et de devoir d'enfant. Après, bien sûr, il y a aussi... tout le reste qui existe, c'est-à-dire la question de moyens financiers, de moyens de temps, d'énergie. Si tu es toute seule avec 3 enfants et que d'un coup, tu dois assumer la charge de ta mère ou de ton père qui te demande une énergie colossale, est-ce que c'est possible ou non? Ben voilà, il y a plein de questions, mais...
Ouais, il faut faire aussi probablement évoluer les structures d'accueil en fait, parce que si tu veux pas t'en occuper toi, il faut que au moins les structures qui peuvent recevoir tes parents soient respectables et qu'elles soient respectueuses des personnes qu'elles accueillent quoi. Il y a tout un truc à faire. Du coup, on va un peu passer. Ah oui. Et moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais toi, Micha, sur enfin, sur toi, la perception que tu as de certaines valeurs qui peuvent être partagées au Maghreb. Moi, j'ai reçu des petits messages là ces derniers temps dans le fait d'accompagner un peu mon papa, enfin, en tout cas d'être là pour lui. Et en fait, ces messages me donnaient énormément de force, justement, de personnes pour qui, en fait, c'est un principe de base. C'est quand il y a quelqu'un de ta famille qui va pas bien, en fait, tu vas te concentrer là-dessus et c'est comme ça et tu vas à fond. Et en fait, qu'il y ait des idées comme ça entre des façons différentes de percevoir la chose qui puissent s'échanger, c'est là aussi où il y a une force qui se construit. Moi, ça m'aide et en même temps, ça ne va pas faire que je ne vais pas penser aussi et vouloir m'organiser différemment à l'avenir. Mmh. Et en fait, on a besoin, je pense, de partager ces idées-là et de les discuter ensemble entre différentes cultures. Et bon, voilà. On est pressé, on commence à être pressé par le temps.
Du coup, je vais vous présenter juste la conclusion que j'avais fait à ce travail où j'avais été pas mal en immersion avec les femmes de plus de 60 ans. Je m'étais vraiment intéressée à leur rapport à leur corps et comment elles, en tant que corps politique, elles se ressentaient dans cette société. Voilà, donc c'est la conclusion de cette brochure qu'on peut retrouver sur libertaire.net. D'un point de vue politique, la vieillesse est intéressante par sa capacité de remise en cause des valeurs dominantes. Face à la concurrence, à la compétition, à la violence des rapports sociaux, la vieillesse oppose la vulnérabilité. Il s'agit toutefois d'une valeur non spécifique à la vieillesse, puisqu'elle est constamment présente tout au long de la vie, mais ignorée et cachée, tant elle est dénigrée par un système capitaliste performatif. C'est de surcroît une valeur constamment référée au féminin. Réintroduire le vulnérable et le fragile, c'est commencer à éroder la dureté des rapports sociaux et prôner le souci de soi et inséparablement le souci de soi des autres, non dans une optique de prise en charge, mais comme action politique de destitution de l'individualisme et de la compétition comme fondement du lien social. Exercer sa liberté, c'est aussi s'insoumettre aux normes qui conforment et formatent les vieux en individus socialement acceptables et dociles. Il s'agit ainsi de questionner un ordre des âges dans lequel la vieillesse fait particulièrement l'objet de normes sociales, sexuelles, familiales, supposant déprise, privation et répression, intériorisé sous forme d'interdit, tel celui de désirer et d'être désiré. Le regard des autres construit la vieillesse, mais l'absence de regard, désirant, met un terme à toute velléité de croire que l'on est encore socialement désirable. Jusqu'alors, la vieillesse constitue en creux le moment de vérité de la place assignée aux femmes, des objets séduisants, sexuellement disponibles pour le désir masculin. Il s'agit aujourd'hui de revaloriser le corps vieillissant de la femme et de prôner un plaisir et un désir enfin libérés des normes patriarcales, hétérocentrées et capitalistes. Face au désir, la vieillesse peut être continuité ou en rupture avec la façon dont chaque individu a trouvé tout au long de sa vie des arrangements avec son désir. Nombre de femmes ont souvent dû composer avec leur désir face à celui de leur partenaire, au point qu'il peut être enfui ou dénié et qu'il n'est plus un ressort pour explorer de nouvelles réalisations. En revanche, enfoui mais reconvoqué, il peut être la matrice d'une vie à soi, d'un désir à soi, la redécouverte d'un corps collectif et politique non résigné.
Thank you.
Micha, tu as une chronique et c'est le moment de nous la partager.
Alors, faut pas pousser. On dit pousser le bouchon, plutôt l'ouvrir, le faire péter, faire buller la bouteille, la faire baver de mousse, s'arroser de joie, de joaillerie, de vieillerie. Parce que, oui, on vieillit, comme des friperies toutes fripées. Et oui, ça pousse. Les oranges ont des peaux. De la naissance à la sénescence, il n'y a pas grand-chose. Juste une vie. Longue ou raccourcie, elle est. Avec ou sans patte d'oie, la retraite, c'est un droit. Celui de se retirer. Éclipse, hop, tu ne me vois plus. Mais j'existe. Je vieillis. Je ne m'assagis pas. Je comprends. Puis, je m'adapte. Je réduis et je grandis en même temps. Je suis vieille. Bientôt. Déjà. Je me répète. Ça a toujours été. Ce sera toujours. Au fond de la peau d'orange, nous restons les mêmes. Faites péter les bouteilles.
Merci.
Wow. Incroyable.
C'était les filles de joie? Oui, Nénu, tu me fais un geste. Il est 9h moins. Oui, madame Trottoir.
Oui, alors l'idée c'était qu'on dise un petit peu au revoir et on a une dernière capsule qui dure 4 minutes 22 à écouter. Voilà, mais on...
Alors, on dit au revoir.
Oui. Ah, on t'entend pas, madame Trottoir.
Oh non, pardon. C'était tellement passionnant ce que je viens de dire.
Oh là là.
Vous avez raté ça et je me rappelle même plus.
Pas mal le coup du bouchon de bouteille, là, de ton histoire, ta métaphore. C'était bien dans le thème du début.
Voilà. Moi, j'ai envie de faire un truc où généralement, c'est un peu considéré comme la honte.
Tu vas faire une dédicace.
Ouais. J'avais trop envie de faire
Allez,
une
vas-y,
une grosse case dédiée à ma maman, là.
Maman.
Vas-y. À la maman Cathy, à la grand-mère Fernand, t'inquiète, t'as capté, les bêtes et tout.
Mais en vrai, en fait, je crois que ça nous a tous fait penser à nos aïeux,
en fait,
à nos
aïeuls. Mais en fait, c'est complètement... Enfin, en fait, je parle
c'est
souvent de ma mère.
Complètement
Non, parce qu'il y a plein de phrases de sagesse que je ressors au quotidien et tout me dit, ah putain... Non, ben, alors j'essaie d'arrêter d'utiliser cette expression. Madame Trottoir, elle dit des trucs hyper sages et tout, mais j'ai tout pompé de ma mère, en fait. Et voilà, je voulais faire une grosse case dédiée parce que je l'aime trop fort, pas parce que c'est ma mère, mais parce qu'en fait, c'est une amie, en fait, que j'appelle régulièrement. Et on...
C'est ta peste, hein.
C'est ma peste. Et voilà, elle est trop chouette et en fait, elle est bienvenue dans n'importe quel teuf, en fait, que ce soit dans une église ou au fin fond d'un champ. Et franchement, même
voilà
dans Diwa, voilà,
je l'invite à mon anniversaire.
Allez, Cathy, t'as invité
comment
à l'anniversaire de Lulu.
Catherine. Cathy, pardon. T'es invité le 3 juin, pas de problème.
Tous les parents, tous les grands-parents,
mais
c'est
oui.
Magnifique. Prête transgénérationnelle, c'est parti. Bon, allez, on y va. Enfin, je veux dire,
oui,
on dit au revoir ou pas.
Elle a peut-être des trucs à dire, hein.
Alors là, vous avez 2 secondes, là.
On pourrait faire une partie 2, hein, au pire.
Oui, yes, c'est ce que j'allais dire. Et la prochaine partie, c'est les filles de joie, les vieilles filles de joie.
Ouais.
Avec tous les âges qui seraient en train de parler dans ce micro, ça pourrait être cool.
Ouais, carrément.
Et du coup, la dernière capsule avec laquelle on vous laisse, c'est une petite interview de Suzanne que j'ai rencontrée à Alèche en Diwa et qui allait fêter ses 103 ou 104 ans, je ne sais plus.
Bisous.
Vous appelez
Suzanne.
Bisous.
Je m'appelle Suzanne.
Et on m'a dit que vous aviez 103 ans.
Je vais les avoir au mois le 4 août.
Et que vous alliez peut-être le fêter avec un voyage en ULM. Mmh.
Ah oui, ça. Ah, des ULM, j'en ai fait plusieurs, oui. Maintenant, je ne peux plus marcher parce que j'ai marché toutes les montagnes, je les ai faites. Toute seule, même. Ça ne me gênait pas. Mais maintenant, bon, les jambes... Je marche un peu, mais je ne peux pas aller très loin. Et j'ai une passion pour les plantes. Et surtout, j'aime beaucoup les plantes grasses. Mais en ce moment, elles sont à l'abri parce qu'on ne peut pas les mettre dehors. Mais autrement, une fois qu'il va faire beau, elles sont dehors. C'est une passion de... Oui, ça, les plantes, c'est une passion que je tiens de ma mère. Oui, oui, oui.
Elle-même cultivait des plantes.
Oui, ah bah oui, elle avait... Elle pouvait avoir une grande serre et elle s'en occupait beaucoup, oui, 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 oui. Et puis, je crois que cet amour de la nature, je le tiens de ma mère. Oui. Mais, si vous voulez, le village qu'on a habité dans le Nord, il était à 3 km d'un village. Et l'usine où travaillait mon père était dans la nature, quoi. Ah oui. Et ça, enfant, avant d'aller à l'école, je passais des journées entières dans le jardin. Je ne sais plus à quoi faire, mais il y avait une rivière, il y avait un arbre, ah, il y avait un tilleul, c'était mon confident. Et... Ah, mon secret, si je peux dire, une fois... Dans une réunion, un genre de séminaire, quelqu'un me posait la question, je ne sais plus quoi. Et j'ai répondu, mais moi, j'aime la vie. Et c'est vrai que même quand il y a des ennuis, quoi, mais, parce que j'ai pas toujours été bien portante, vous savez. Non. En 87, j'ai fait un cancer, avec 6 mois de chimio, oui. Mais c'est ce qui m'a sauvée, d'un autre côté. Mais je crois que c'est ça aussi, de vouloir vivre.
C'est inspirant pour moi, qui vous écoute.
Oui,
ouais.
oui, parce que... Et... D'un autre côté, on comprend les personnes âgées qui se laissent aller. Je crois qu'il faut savoir voir le bon côté de la vie. Ben, il y a toujours des mauvais côtés, il y a des mauvais côtés, mais dans un mauvais côté, il y a toujours du bon. Et ça, une personne, ça m'a fait beaucoup... Ça m'a servi. C'est quelqu'un qui m'a dit « Dans toute mauvaise chose, il y a du bon. » Et c'est vrai. Mais il faut savoir le découvrir. Et moi, j'aime beaucoup fréquenter les jeunes. Parce qu'il y a tellement d'espoir. C'est vrai, quand on est jeune. Oui. Et il faut savoir le vivre aussi, parce qu'il ne faut pas se laisser... Oui. Il y a des jeunes qui, malheureusement, se laissent écraser.